On n'avance pas sur le dossier de la paix, m'avait averti Ram en 2009, quand le président américain et le premier ministre israélien ne sont pas du même bord politique. Nous parlions alors du récent retour de Bibi au poste de premier ministre, le Likoud ayant réussi à bricoler une coalition gouvernementale avec les partis de droite, alors qu'il avait remporté un siège de moins que Kadima, plus centriste. Ram, qui avait brièvement servi dans l'armée israélienne en tant que volontaire et se trouvait auprès de Bill Clinton durant la négociation des accords d'Oslo, convenait que nous devions tenter de relancer les pourparlers entre Israël et la Palestine, au moins parce que cela empêcherait peut-être que la situation ne se dégrade encore davantage. Mais il n'était pas très optimiste, et lorsque j'ai commencé à côtoyer Netanyahou et son homologue palestinien, Mahmoud Abbas, j'ai compris pourquoi. Bâti comme un rugbyman, avec une mâchoire carrée, des traits épais et une calvitie sur laquelle il rabattait des mèches de cheveux gris, Netanyahou était intelligent, habile, coriace, et s'exprimait avec aisance en hébreu comme en anglais. Il était né en Israël, mais avait passé sa jeunesse à Philadelphie, et sa voix grave et élégante en conservait une pointe d'accent. Sa famille était depuis longtemps liée au mouvement sioniste. Son grand-père, rabbin, avait quitté la Pologne en 1920 pour s'installer en Palestine, encore sous domination britannique. Et son père, un professeur d'histoire connu pour ses travaux sur la persécution des Juifs durant l'Inquisition espagnole, avait pris la tête de la branche la plus militante du mouvement avant la fondation d'Israël. Bien qu'ayant grandi dans un foyer laïque, Netanyahou avait hérité du zèle de son père à défendre Israël. Il avait fait partie des forces spéciales de Tsahal et combattu pendant la guerre du Kippour en 1973. Et son frère aîné était mort en héros au cours du légendaire raid d'Entebbe en 1976, lors duquel des commandos israéliens avaient sauvé les 102 passagers d'un vol Air France détourné par des terroristes palestiniens. Il était plus difficile de déterminer s'il avait aussi hérité de l'hostilité paternelle décomplexée envers les Arabes. La tendance au conflit est dans la nature de l'Arabe, c'est par essence un ennemi, sa personnalité lui interdit tout accord ou compromis. Ce qui était certain, c'est qu'il avait bâti son personnage politique autour d'une image de force et de l'idée selon laquelle les Juifs ne pouvaient se satisfaire d'une foi tiède et devaient se montrer aussi durs que la région où ils vivaient. Cette philosophie concordait avec celle des membres les plus belliqueux de l'AIPAC, des dirigeants du Parti républicain et de la droite américaine fortunée. Netanyahou savait être charmant, ou du moins déférent, lorsqu'il y trouvait un avantage. Il avait par exemple fait des pieds et des mains pour venir me saluer dans un salon de l'aéroport de Chicago, peu après mon élection au Sénat, me couvrant d'éloges pour un texte pro-Israël anodin dont j'avais soutenu l'adoption. Mais l'image qu'il avait de lui-même, celle de grand défenseur du peuple juif contre toutes les calamités, lui permettait de justifier à peu près tout ce qui pouvait le maintenir en place. Et avec sa connaissance de la politique et des médias américains, il était convaincu de pouvoir résister à toutes les pressions d'un gouvernement démocrate tel que le mien. Nos premières discussions, au téléphone et pendant ses visites à Washington, s'étaient plutôt bien passées, malgré des visions du monde très différentes. Il avait surtout envie de parler de l'Iran, qu'il voyait légitimement comme la plus grande menace contre Israël, et nous sommes convenus de nous coordonner pour empêcher Téhéran d'acquérir l'arme nucléaire. Mais lorsque j'ai évoqué la possibilité d'un redémarrage des pourparlers de paix avec les Palestiniens, il a été résolument évasif. « Je vous assure qu'Israël ne désire que la paix, m'a-t-il dit, mais une paix qui réponde à nos besoins. » Il m'a confié sans détour, et il le répéterait publiquement, qu'il soupçonnait Abbas de n'en avoir ni la volonté ni la capacité. Je comprenais son point de vue. Si sa réticence à engager des pourparlers découlait de la puissance grandissante d'Israël, à l'inverse, celle du président palestinien provenait de sa faiblesse politique. Le cheveu et la moustache blanc, doux de tempérament et réfléchi dans ses mouvements, Abbas avait aidé Arafat à fonder le Fatah, qui était ensuite devenu la faction dominante au sein de l'OLP et avait passé l'essentiel de sa carrière à s'occuper des aspects diplomatiques et administratifs, restant dans l'ombre d'un chef plus charismatique que lui. À la mort de ce dernier, il était le successeur potentiel préféré des États-Unis et d'Israël, car il reconnaissait Israël sans réserve et avait depuis longtemps renoncé à la violence. Mais sa prudence innée et son désir de coopérer avec l'appareil de sécurité israélien, sans parler des rumeurs persistantes de corruption au sein de son gouvernement, avaient entaché sa réputation au sein de son propre camp. Ayant déjà perdu le contrôle de Gaza, passé sous domination du Hamas après les élections législatives de 2006, il estimait que les pourparlers de paix avec Israël étaient un risque inutile, en tout cas sans concession tangible susceptible de le couvrir politiquement. La question immédiate était de savoir comment inciter Netanyahou et Abbas à s'asseoir à la table des négociations. Pour trouver une réponse, je comptais sur un groupe de diplomates talentueux et en premier lieu sur Hillary, qui maîtrisait ses questions et avait déjà eu des contacts avec la plupart des acteurs de la région. Afin de bien montrer qu'il s'agissait d'un sujet prioritaire, j'ai nommé un envoyé spécial pour la paix au Moyen-Orient en la personne de George Mitchell, l'ex-chef de file démocrate au Sénat. Mitchell appartenait à l'ancienne garde. C'était un politicien exigeant et pragmatique qui avait fait la preuve de ses talents de pacificateur en négociant l'accord du Vendredi Saint en 1998, lequel avait mis fin à des décennies d'affrontements entre catholiques et protestants en Irlande du Nord. Nous avons commencé par demander un gel temporaire des implantations de colons israéliens en Cisjordanie, source de friction entre les deux camps, afin que les négociations puissent se dérouler dans de bonnes conditions. La colonisation, autrefois limitée à de petits avant-postes de croyants fervents, était avec le temps devenue une véritable politique, et en 2009, environ 300 000 colons israéliens vivaient hors des frontières reconnues du pays. Les promoteurs immobiliers continuaient à construire à l'intérieur et dans les environs de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est une partie de la ville contestée et majoritairement arabe dont les Palestiniens espéraient un jour faire leur capitale. Tout cela avec la bénédiction des politiciens, soit parce qu'ils partageaient les convictions religieuses du mouvement colonisateur, soit parce qu'ils avaient un intérêt à se mettre les colons dans la poche, soit parce qu'ils cherchaient une solution à la crise du logement en Israël. Pour les Palestiniens, la multiplication des colonies équivalait à une annexion au ralenti et symbolisait l'impuissance de l'autorité palestinienne. Nous savions que Netanyahou regimberait probablement à l'idée de ce gel. Les colons étaient devenus une force politique importante et leur mouvement pesait dans son gouvernement de coalition. Il allait aussi se plaindre de ce que la contrepartie que nous exigions des Palestiniens, une action concrète d'Abbas et de l'autorité palestinienne pour stopper les provocations en Cisjordanie, était plus difficile à mesurer. Mais étant donné l'écart de puissance entre Israël et les Palestiniens, au fond, Abbas ne pouvait pas donner grand-chose aux Israéliens qu'il n'ait déjà pris, je trouvais raisonnable de demander au camp le plus puissant de faire un pas plus grand sur le sentier de la paix. Comme je m'y attendais, Netanyahou a d'abord refusé catégoriquement notre proposition de geler les implantations, et ses alliés à Washington n'ont pas tardé à nous accuser d'affaiblir l'alliance entre Israël et les États-Unis. Les téléphones de la Maison-Blanche ont commencé à sonner sans interruption, et mes collaborateurs à répondre aux journalistes et parlementaires qui se demandaient pourquoi nous nous en prenions à Israël au sujet des colonies, alors que tout le monde savait que le plus grand obstacle à la paix était la violence des Palestiniens. Un après-midi, Ben est arrivé en retard en réunion, l'air plus préoccupé que d'habitude, après avoir passé pratiquement une heure en ligne avec un parlementaire de gauche très inquiet. « Je croyais qu'il était opposé aux colonies », ai-je dit. « Oui, mais il est aussi opposé à ce qu'on fasse quoi que ce soit pour s'opposer aux colonies. » Ces pressions ont continué tout au long de l'année 2009, assorties d'interrogations concernant Mekishk. Régulièrement, nous invitions à la Maison-Blanche des dirigeants d'associations juives ou des parlementaires pour les assurer de notre engagement inébranlable à préserver la sécurité d'Israël et l'alliance avec les États-Unis. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Malgré mon différend avec Netanyahou au sujet du gel des colonies, j'avais honoré mes promesses et approfondi notre coopération, travailler à contrer la menace iranienne et contribuer au financement d'un système de défense, le Dôme de fer, qui permettrait à Israël d'abattre les roquettes fabriquées en Syrie et tirées depuis Gaza ou les positions du Hezbollah au Liban. Mais le tapage orchestré par Netanyahou avait produit l'effet escompté en nous faisant perdre du temps, en nous mettant sur la défensive et en me rappelant qu'une divergence normale avec un premier ministre israélien, même à la tête d'un fragile gouvernement de coalition, avait un coût politique sans équivalent dans les relations avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Japon, le Canada ou n'importe quel autre allié proche. Mais, peu après mon discours du Caire, début juin 2009, Netanyahou a entrouvert la porte en déclarant pour la première fois qu'il était favorable, sous condition, à une solution à deux États. Et après plusieurs mois de dissension, Abbas et lui ont enfin accepté mon invitation à discuter en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui rassemblait tous les chefs d'État à la fin du mois de septembre. Les deux hommes ont fait preuve de courtoisie mutuelle, Netanyahou volubile et à l'aise, Abbas plutôt fermé, se contentant d'opiner de temps à autre, mais n'ont rien dit quand j'ai tenté de les pousser à prendre des risques pour parvenir à la paix. Deux mois plus tard, Netanyahou acceptait pourtant de geler pendant deux mois la délivrance de nouveaux permis de construire en Cisjordanie, tout en refusant d'étendre cette mesure à Jérusalem-Est. Hélas, mon optimisme devait être de courte durée. Abbas a qualifié cette annonce de dérisoire puisque Jérusalem-Est en était exclue et que la construction de projets déjà approuvés se poursuivait à un rythme soutenu. Il réclamait un gel total, sinon il ne participerait pas aux négociations. D'autres dirigeants arabes ont rapidement fait écho, aiguillonnés par la ligne éditoriale d'Al Jazeera, la chaîne de télévision qatarienne qui était devenue la principale source d'information dans la région et avait acquis sa popularité en attisant la colère et le ressentiment des Arabes avec une précision algorithmique semblable à celle de Fox News pour les Américains blancs et conservateurs. La situation a encore empiré en mars 2010, alors que Joe Biden se trouvait en Israël pour une visite amicale, quand le ministre de l'Intérieur israélien a annoncé la construction de 1600 nouveaux logements à Jérusalem-Est. Netanyahou a eu beau jurer qu'il n'était pour rien dans le moment choisi pour la délivrance de ses permis, cela a eu pour effet de renforcer chez les Palestiniens le sentiment que ce gel était une imposture et que les États-Unis en étaient complices. J'ai demandé à Hillary d'appeler Netanyahou pour lui faire savoir que je n'étais pas content et nous avons invité une nouvelle fois son gouvernement à plus de retenue dans l'expansion des colonies. Netanyahou nous a répondu un peu plus tard dans le mois depuis la conférence annuelle de l'AIPAC à Washington, lorsqu'il a soulevé un tonnerre d'applaudissements en déclarant que « Jérusalem n'est pas une colonie, c'est notre capitale ». Nous avions rendez-vous à la Maison Blanche le lendemain. Afin de désamorcer les tensions, je n'ai pas contesté la fable selon laquelle l'annonce de ces nouvelles constructions était un malentendu, et nous avons ensuite discuté en dépassant amplement le temps alloué à notre rencontre. Puisque j'avais un autre engagement et que Netanyahou avait encore plusieurs points à évoquer, j'ai suggéré que nous fassions une pause et que nous reprenions une heure plus tard, mettant entre-temps la salle Roosevelt à la disposition de sa délégation. Netanyahou m'a dit qu'il attendrait avec plaisir et, à la fin de notre deuxième entretien, nous nous sommes séparés en termes cordiaux. Mais le lendemain, Ram a déboulé dans le bureau ovale pour m'annoncer que certains journaux prétendaient que j'avais snobé Netanyahou en le faisant volontairement poireauter. À la suite de quoi, on m'accuserait d'avoir laissé une rancœur personnelle gâter les relations vitales entre les États-Unis et Israël. C'est l'une des rares fois où j'ai juré encore plus fort que Ram. Avec le recul, je me demande parfois, éternelle question, dans quelle mesure la personnalité des différents chefs d'État infléchit l'histoire avec un grand H. Si ceux d'entre nous qui accèdent au pouvoir sont de simples vecteurs des courants profonds de l'époque, ou si nous sommes au moins partiellement auteurs des événements à venir. Je me demande si nos doutes et nos espoirs, nos traumatismes d'enfance et nos souvenirs de bonté inattendue ont autant de force que les bouleversements technologiques et les tendances socio-économiques. Je me demande si une présidente Hillary Clinton ou un président John McCain auraient mieux réussi à s'attirer la sympathie des deux camps, si les choses auraient été différentes avec un autre premier ministre que Netanyahou ou avec un Abbas plus jeune, déterminé à marquer son temps plutôt qu'à se préserver des critiques. Ce dont je suis sûr, c'est que, malgré les heures passées par Hillary et George Mitchell en navette diplomatique, nos projets de paix ne menaient nulle part. Jusqu'au jour où, fin août 2010, tout juste un mois avant l'expiration du gel des implantations, Abbas a finalement accepté de négocier, grâce à l'intervention du président égyptien Hosni Moubarak et du roi Abdallah de Jordanie. Abbas posait toutefois une condition à sa participation. Israël devait accepter de prolonger le gel. Ce même gel qu'il venait de passer 9 mois à dénigrer. Sans perdre un instant, nous avons invité Netanyahou, Abbas, Moubarak et Abdallah à entamer officiellement les pourparlers le 1er septembre avec une série de rendez-vous à la Maison Blanche suivis par un dîner privé. Les rencontres de la journée devaient être essentiellement protocolaires. Le vrai travail d'élaboration de l'accord reviendrait à Hillary, Mitchell et leurs équipes de négociation. Cela ne nous a pas empêchés d'y intégrer des séances photos et des interviews avec toute la pompe possible, et l'ambiance entre les quatre dirigeants s'est révélée tout du long chaleureuse et collégiale. J'ai encore une photo nous montrant tous les cinq en train de consulter la montre du président Moubarak pour vérifier si le soleil était officiellement couché, car c'était le mois de Ramadan et nous devions nous assurer que le jeûne avait été levé avant de pouvoir prendre place pour dîner. Dans la lumière tamisée de l'ancienne salle à manger familiale, nous avons décrit chacun notre tour l'avenir tel que nous le voyons. Nous avons évoqué des prédécesseurs tels que Begin et Sadat, Rabin et le roi Hussein de Jordanie, qui avaient eu assez de courage et de sagesse pour combler des fossés très anciens. Nous avons parlé du coup des conflits interminables, des pères qui ne retrouvaient jamais leur foyer et des mères qui enterraient leurs enfants. Vu de l'extérieur, ce moment aurait paru empli d'espoir, comme le début d'une nouvelle ère. Pourtant, un peu plus tard dans la soirée, une fois le dîner terminé et les chefs d'État rentrés à leur hôtel, alors que je consultais mes briefings du lendemain dans la salle des traités, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une vague inquiétude. Les discours, les conversations, la familiarité, tout cela me paraissait trop décontracté, presque ritualisé, une comédie que ces quatre chefs d'État avaient sûrement déjà jouée des dizaines de fois et qui servait à endormir le nouveau président américain, persuadé que les choses pouvaient changer. Je les ai imaginés en train de se serrer la main après coup, à la façon des acteurs sortis de scène qui se débarrassent de leurs costumes et de leur maquillage avant de retrouver le monde qu'ils connaissent. Un monde dans lequel Netanyahou pourrait attribuer l'impossibilité de la paix à la faiblesse d'Abbas, tout en s'efforçant de l'affaiblir le plus possible, et où Abbas pourrait accuser publiquement Israël de crimes de guerre, tout en concluant discrètement des contrats commerciaux avec les Israéliens. Un monde où les dirigeants arabes pourraient déplorer les injustices infligées aux Palestiniens, pendant que leurs propres forces de police traquaient sans relâche les opposants et les mécontents susceptibles de fragiliser leur pouvoir. J'ai alors pensé à tous les enfants, à Gaza, dans les colonies israéliennes ou dans les rues du Caire ou d'Amman, qui continueraient de grandir dans la violence, la répression, la peur et la haine, parce que, au fond, aucun des chefs d'État que je venais de rencontrer ne croyait en la possibilité d'un avenir différent. Un monde dénué d'illusions, c'est ainsi qu'ils l'appelleraient. Israéliens et Palestiniens n'allaient finalement se rencontrer que deux fois, une à Washington, le lendemain du dîner à la Maison-Blanche, et une autre en deux temps, 12 jours plus tard, à l'invitation de Moubarak, dans la ville balnéaire de Sharm el-Sheikh, qui s'est poursuivie ensuite à Jérusalem, dans la résidence de Netanyahou. Hillary et Mitchell m'ont rapporté que de nombreux points avaient été abordés et que les États-Unis avaient proposé des contreparties aux deux camps, dont une hausse des aides et même la possible libération anticipée de Jonathan Pollard, un Américain condamné pour espionnage au profit d'Israël et qui était devenu un héros pour la droite du pays. Mais en vain. Les Israéliens ont refusé de prolonger le gel des implantations. Les Palestiniens se sont retirés des négociations. 3 mois plus tard, en décembre 2010, Abbas menaçait de se présenter devant les Nations Unies pour réclamer la reconnaissance d'un État palestinien et devant la Cour pénale internationale pour demander qu'Israël soit poursuivi pour crimes de guerre à Gaza. De son côté, Netanyahou menaçait de compliquer encore la vie de l'autorité palestinienne. George Mitchell a tenté de prendre un peu de recul en me rappelant que pendant les négociations autour du conflit en Irlande du Nord, on a eu 700 journées pourries et une seule bonne. J'avais tout de même l'impression que la possibilité d'un accord de paix venait de s'envoler et ne se représenterait pas de sitôt. Au cours des mois à venir, je repenserai souvent à mon dîner avec Abbas et Netanyahou, Moubarak et le roi Abdallah. À ce jeu de dupes et à leur absence de détermination. Se persuader que l'ordre ancien persisterait indéfiniment au Moyen-Orient, croire que les enfants du désespoir ne se révolteraient jamais contre ceux qui entretenaient le statu quo, cela s'est révélé la plus grande des illusions.